Shalom, que l'Éternel vous bénisse tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude qui s'intitule « Le Seigneur cherche la droiture de son épouse ». C'est une étude importante qui, je l'espère, va nous faire réfléchir. Mais avant de commencer, je voudrais vous donner quelques petites informations. D'abord, vous avez remarqué comme moi que sur YouTube maintenant il y a énormément de publicités qui viennent couper les vidéos. C'est très gênant et chacun cherche une solution. Alors je voudrais vous dire que moi j'ai trouvé une solution, si vous pouvez le faire, ça marche. C'est de télécharger les vidéos sur votre ordinateur. Moi j'utilise un petit logiciel gratuit qui s'appelle 4K. Vidéo Downloader, 4 comme le chiffre 4, K c'est la lettre K, Vidéo Downloader, c'est gratuit, et vous pouvez télécharger la vidéo sur votre ordinateur, donc simplement, et à partir de là, si vous la regardez, eh bien il n'y a plus de pub. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, avant de commencer cette étude, c'est que je ne vais pas faire un discours sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, simplement faire juste un petit commentaire, une petite introduction, disant que Amalek a réouvert la plaie de la Shoah et il a tendu un piège à Israël. Ce faisant, Israël ne peut pas faire autrement que de répondre, et Amalek s'est donc arrangé pour que, et il pousse à ça, pour que ça répande la haine contre Israël dans le monde entier. On comprend le mécanisme, et ce que je voulais vous demander, frères et sœurs, c'est, s'il vous plaît, comprenez les mécanismes et ne tombez pas dans le piège. Il y a beaucoup de souffrance pour des innocents. Amalek s'en moque complètement. Amalek est un esprit méchant. Il s'en sert pour, il se sert de ses souffrances pour retourner l'opinion publique contre Israël, et c'est absolument abject. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Éternel veille dans cette affaire. Nous sommes dans une période des douleurs de l'enfantement. Et je voudrais vous relire un petit texte de Jérémie au chapitre 30, à partir du verset 6, dans la version second, il dit « Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus son cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. » Alors, nous sommes arrivés à une étape de la fin des temps, une étape très importante. J'en ai parlé un peu dans l'étude qui s'appelle « Cette nuit-là ». C'est la nuit, une nuit de Jacob qui commence, qui va durer un certain temps, il y a plusieurs guerres peut-être. C'est un temps d'angoisse, c'est les douleurs de l'enfantement, et nous devons nous tenir aux côtés d'Israël dans la prière. Et aussi aux côtés des gens innocents qui sont tués à cause d'Amalek. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais alors, une autre question se pose maintenant, c'est qu'en est-il de l'épouse de l'Éternel? L'Éternel cherche la droiture de son épouse. Nous arrivons à la fin des temps et je pose la question, êtes-vous prêts? Alors, c'est une étude qui va reprendre certaines choses que j'ai déjà dites, mais bon, c'est le travail d'un enseignant de se répéter, vous le savez. Mais néanmoins, c'est important parce que si nous ne préparons pas nos vies, nos cœurs, nous risquons de rater la fin. Dans le psaume 84, au verset 6, je lis « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors, avant de commencer, frères et sœurs, nous allons prier. Père éternel, tu sais que mon cœur est à toi. Et tu sais, Père, que je crois que tu tiens toutes les choses dans tes mains. Tu es le maître du monde, tu diriges toutes choses, rien ne t'échappe. Tu vois tout ce qui se passe. Et c'est toi qui juges. Aussi, nous attendons le retour de Yeshua Mashiach qui va rétablir toutes choses sur cette terre. Et Seigneur, Père éternel, je voudrais te prier que tu sois avec nous ce moment là où nous allons parler dans ta parole, eh bien pour que tu puisses ouvrir nos esprits et nos cœurs et que rien, Seigneur, ne puisse tomber sur le côté. Seigneur, que ton saint nom soit béni dans les cieux. Tu es le grand Dieu, tu es le maître du monde et tu vas jeter Satan. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen. Voyez-vous, la droiture. Le Seigneur cherche la droiture de son épouse. La droiture, c'est un sujet important à comprendre parce que toutes les personnes qui se réfèrent à l'Éternel doivent être droites. J'ai déjà abordé ce sujet, mais je voudrais d'abord vous parler du sens des mots. Je suis d'abord allé voir dans le dictionnaire Larousse, le mot droiture veut dire, il y a des synonymes comme bonne foi, équité, franchise, honnêteté, honorabilité, impartialité, incorruptibilité, intégrité, justice, loyauté, probité, rectitude, sincérité, sportivité. Et le contraire, eh bien, c'est astuce, déloyauté, dissimulation, duplicité, fausseté, fourberie, hypocrisie, malhonnêteté et mauvaise foi. Alors, en hébreu, on trouve le mot tamam, qui veut dire sans tache, parfait, innocent, complet, entier. Et cette racine va donner le mot tom, dont le sens est irréprochable. C'est ce qu'était Noé. C'est aussi une partie de la cuirasse du grand prêtre. Ce qu'on appelle la cuirasse du grand prêtre, c'est les toumim, le pectoral, toumim. Le deuxième mot en hébreu, c'est yachar, être lisse, droit, vrai, vérité, équitable, convenable. Après, vous avez zarak, être brillant, propre, pur, innocent. Ensuite, on trouve le mot tzedek, qui veut dire droiture, justesse, équitable, vertueux, juste. La racine va donner le mot tzedaka, qui est la droiture, la justice, l'honnêteté. Et puis enfin, vous avez shafat, qui veut dire juger, gouverner, justifier, et qui va donner le mot mishpat, qui est une ordonnance, une loi. Donc, on a évoqué ces deux mots déjà dans d'autres études, la tzedaka et le mishpat, qui sont la base du trône de l'Éternel. Je vous rappelle le psaume 97, versets 1 et 2, Yodévavé règne. La terre exulte, les îles nombreuses se réjouissent, la nuée, le brouillard autour de lui, la justice Tzedaka, le jugement Mishpat, à l'assise de son trône. Alors, avant de commencer vraiment cette étude, faisons quelques petites remarques. La première remarque importante qu'on peut faire, c'est que le trône de l'Éternel n'a pas changé et ne changera jamais. Il n'a pas changé à cause ou grâce au sacrifice de Yeshua, il n'y a pas de raison. Et personne, absolument personne, n'est capable de changer la base du trône de l'Éternel. De même que lui ne change pas. Ça signifie que ce qu'il aimait dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il l'aime toujours. Et ce qu'il n'aimait pas, il ne l'aime toujours pas. Il n'y a pas de raison. Yeshua est assis à la droite du Père maintenant. Et là, non seulement il intercède pour nous, mais c'est de là qu'il viendra pour juger la terre. Dans Romains 8, 34, il est dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite d'Élohim et il intercède pour nous. » Bon. Il y a une autre question importante qu'il faut que j'aborde, que je réaborde, parce que je l'ai déjà fait, mais je pense que j'ai sur mon cœur de le refaire, en partie au moins, c'est la question du salut. Ça a toujours été un sujet complexe dans la tête des gens. Un jour, un serviteur de Dieu disait que les chrétiens se divisaient en deux camps. Il y avait ceux qui croient qu'on ne peut pas perdre son salut, et puis ceux qui croient le contraire. Et il ajoutait que c'était impossible de les départager, parce qu'il y avait autant de versets en pour que contre. Alors, ça c'est un peu spécial quand même, parce que le Seigneur ne nous laisse pas comme ça dans le brouillard. Et la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Donc, le problème, c'est juste une question de compréhension et de traduction. C'est pourquoi il faut faire un effort pour comprendre les Écritures, pour voir si les enseignements que nous avons reçus dans les églises, souvent, depuis des années, est-ce que ce sont des enseignements qui sont complètement justes ou pas ? Les églises ont transmis des enseignements. Bien sûr, elles croyaient que c'était juste, mais quelquefois, ils étaient incomplets. Et beaucoup de chrétiens ont pris ces enseignements pour des croyances absolues et complètes. Mais je veux faire simplement quelques petites remarques ici pour vous dire, mais faites attention. En plus, je vais vous dire, l'expression « perdre son salut » est mal choisie. Pourquoi ? Eh bien parce que le salut, nous ne l'aurons, écoutez bien ce que je vous dis, nous ne l'aurons qu'à la fin de notre vie terrestre. Pour le moment, nous ne l'avons que par la foi. Donc, on ne peut pas perdre le salut qu'on n'a pas encore. Mais il faut réfléchir à cette question. Pour illustrer le propos, par exemple, on est habitué à lire le verset suivant, 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez cette traduction dit « pour nous qui sommes sauvés », comme si c'était fait. Mais il faut aller voir la traduction, la vraie traduction. ce verset, quand on le lit comme ça, on pourrait dire, bon, ben ça y est, je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi maintenant, de toute façon, je suis sauvé. Alors, il y a un prêtre qui s'appelle l'abbé Abel, qui a écrit beaucoup, qui a fait une grammaire grecque. Et dans cette grammaire grecque, très documentée, il dit que ce verset-là, le terme, est une forme durative sans égard à son achèvement. C'est-à-dire que c'est un présent continu dont l'issue reste incertaine. Autrement dit, cette issue, elle est conditionnée. On pourrait traduire, et certains l'ont fait d'ailleurs, de la manière suivante, nous sommes en train d'être sauvés. Et c'est la solution qui a été choisie par la traduction TOB. Je vous la lis, 1 Corinthiens 1, 18. Le langage de la croix, en effet, est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés pour nous, il est puissance de Dieu. Nous sommes en train d'être sauvés. Et la traduction anglaise le dit bien aussi, puisqu'elle prend la forme ing. We are being saved. Je ne parle pas très bien l'anglais, excusez-moi. Et puis, la nouvelle traduction seconde, dit cette fois, en effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qu'il faut vraiment étudier, vraiment faire attention. Moi je ne dis pas ça pour vous embêter, hein. Je dis ça parce que c'est sérieux. Et puis, on va continuer parce que on peut se poser une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler à son salut? Enfin, si on a son salut, pourquoi est-ce qu'il faut encore travailler à son salut? Vous comprenez? Dans Romains 8, 24, on lit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit plus est qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer ? » Vous voyez, c'est bien en espérance qu'on est sauvé. Ça veut dire que nous aurons, je le redis, le salut qu'au jour de notre mort. Nous allons tous mourir. Alors, si nous sommes sauvés, Yeshua nous accueillera dans sa maison. Mais en attendant, nous avons le salut par la foi, et à condition de toujours tenir la main de Yeshua. C'est pas lui qui va nous faire tomber de sa main. Non, nul ne les ravira de ma main. Ça peut être nous qui décidons un jour, moi je veux sortir de ta main parce que j'ai envie de faire autre chose. Je vais continuer. L'Épître aux Éphésiens parle du casque du salut. Mais, je vous lis, Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » D'accord. Mais allez voir 1 Thessaloniciens 5, 8. Et là on dit, « Mais pour nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Donc vous voyez que le casque, c'est l'espérance du salut. Et les Écritures nous enseignent que nous devons travailler à notre salut. C'est bizarre comme expression, non? C'est dans Philippiens 2, 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Connaissez-vous, frères et sœurs, un employeur qui paye à l'avance? Vous en connaissez-vous? Moi, j'en ai jamais rencontré. La façon de faire, c'est de passer un contrat qui stipule que si vous faites votre travail, vous serez payé à la fin du mois. Et de même, le Seigneur nous donnera le salut qu'à la fin de notre parcours sur terre. Maintenant, la comparaison s'arrête là parce que le salut est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Travailler à votre salut, si c'est gratuit, ben il ne faut rien faire alors pour mériter le salut. Non, il ne faut pas le mériter, c'est une grâce. Mais Paul dit travailler avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que c'est donc que cet employeur qui nous fait travailler avec crainte et tremblement? Et le travail en question consiste à conserver sa vie propre, à apprendre tous les jours à aimer le Seigneur et son prochain, à marcher dans un chemin de sanctification. Et selon toute vraisemblance, la prédication de la grâce sans véritablement repentance et rencontre avec le Seigneur, sans une rencontre véritable avec le Seigneur, est un enseignement qui a conduit l'Église à perdre la crainte de Dieu. Je n'arrête pas de dire que lorsqu'on voit les témoignages des nouveaux baptisés, il n'y a plus de repentance. Et on leur dit « vous êtes sauvés ». Mais c'est un problème grave. Et là, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Et quand on n'a pas la crainte de l'Éternel, on finit par adopter les mœurs du monde. Et c'est une des raisons de l'origine de la tiédeur de l'Église actuelle en Occident, bien entendu. Si je dis que je ne peux pas perdre mon salut que je n'ai qu'en espérance, pourquoi est-ce que je devrais travailler avec crainte et tremblement? Seigneur, s'il te plaît, rends la sagesse à ton Église. 2 Timothée 3,15 nous dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Yeshua HaMashiach. » Je voudrais vous parler aussi un petit peu de la grâce. Vous savez que on dit toujours, on dit souvent que la grâce est apparue dans le Nouveau Testament. Mais c'est pas tout à fait juste, vous savez. Regardez, n'oubliez pas que les Hébreux ne pouvaient pas sortir d'Égypte, qui était une prison d'esclavage. Ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte par eux-mêmes. Il a fallu la préparation de Moïse, qui a rassemblé les familles pour faire un regroupement, et les 10 plaies d'Égypte pour arriver au bout du Pharaon. Et en même temps, l'Éternel faisait la démonstration que toutes les idoles étaient sans puissance. Mais je vais vous lire un texte étonnant. Dans Deutéronome 9, versets 4 à 6, je ne vais pas tout lire, mais regardez le verset 5 et suivant. « Non, ce n'est pas à cause de ta justice, Tzedaka, et de ta droiture, Yosher, de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères. Autrement dit, ce texte nous fait comprendre que c'est par grâce que les Hébreux sont rentrés en terre promise. Ils ne l'ont pas mérité. La raison, elle est double. C'est d'abord la promesse faite au patriarche, en particulier Abraham, Isaac et Jacob, et deuxièmement, parce que les habitants de l'époque avaient rempli la coupe d'iniquité. Donc, la raison fondamentale, c'est la promesse de Dieu, je vous donnerai ce pays, et le moment de la réalisation est obtenu par l'état de méchanceté des populations locales. Donc, les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils n'y étaient pour rien. Sauf qu'ils étaient les descendants des patriarches, donc héritiers de la promesse. Ceci étant dit, ils ne sont pas tous rentrés. Il n'y en a que deux qui sont rentrés. Alors, on va continuer la réflexion en parlant de la cuirasse de justice. Éphésiens 6, versets 14 à 17 nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. » 1 Thessaloniciens 5,8 nous dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » On a lu ce texte tout à l'heure. Alors, une cuirasse, frères et sœurs, c'est pour nous protéger. Elle doit couvrir toutes les parties du corps, toutes les parties vitales, en tout cas. Mais si elle comporte un défaut, eh bien, c'est une faiblesse. Et c'est par là que l'ennemi va attaquer. C'est comme ça que le roi Akab a été tué. Je vous relis 2 Chroniques 18-33. Alors un homme tira de son arc au hasard. C'est curieux, hein, les hasards. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de la bataille, car je suis blessé. » Et il est mort comme ça. Il est mort à cause du défaut de la cuirasse. Et le malin cherche dans nos vies, frères et sœurs, le défaut de la cuirasse, et s'il peut nous tuer, il nous tuera. Il connaît nos faiblesses. Il rôde autour de nous. Il nous examine. Il cherche nos faiblesses, nos points faibles. Il les connaît. Et si nous tombons dans un panneau, tac, il est là. Il lance des pièges. Par exemple, combien de fois à la caisse d'un magasin, la caissière nous rend trop de monnaie. Ou ne compte pas un article. Hop, c'est passé comme ça. Ou applique un prix trop bas. Mais dites-moi, frères et sœurs, si vous l'avez vu, et si vous ne dites rien, mais ça y est, vous êtes piégés. Il a fait un trou dans la cuirasse. Il a obtenu un droit sur vous. C'est tout bête, hein? Mais c'est tellement fréquent. Si vous pratiquez volontiers un petit mensonge, une petite trahison, un petit vol, un petit oubli dans la déclaration d'impôt, un petit secret que vous racontez tout partout, une petite manipulation, tout ça va donner des droits au malin. Et il accuse et réclame ses droits. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais à ce moment-là, il faut toujours être sur ses gardes, on ne peut plus vivre paisiblement, alors qu'on devrait être dans la paix, etc. Oui, il faut être sur ses gardes. Tout est une question d'habitude. Par exemple, si vous avez l'habitude de mentir, eh bien, il faut la perdre avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur veut que son épouse soit droite et intègre, et ça s'apprend. Dans le Proverbe 16, verset 17, il est dit « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » C'est l'Éternel qui nous protège. L'armure, c'est une chose, mais la protection, elle vient de l'Éternel, elle vient de Yeshua Mashiach. Dans le psaume 91, versets 1 à 8, on lit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Mais à condition qu'on fasse attention, frères et sœurs. Alors, regardez comment sont les hommes. La question du salut, vous savez, elle est importante, et peut-être la plus importante qui soit. Parce que quand on arrive à la fin de sa vie, est-ce qu'on est propre? Est-ce qu'on a demandé pardon? Est-ce qu'on est vraiment justifié par l'Éternel? Par le Yeshua, par la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, son sacrifice? J'aimerais vous relire, frères et sœurs, un texte que vous connaissez bien. La parabole des noces, dans Matthieu 22, versets 11 à 14. On lit « Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Et il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » C'est quand même Yeshua qui raconte ça. C'est pas n'importe qui. À cette époque-là, on distribuait, quand il y avait une noce, on distribuait aux invités un habit de noces, c'est-à-dire des habits blancs propres. C'est d'un blanc immaculé, parce que ça veut dire que pour être invité à la table du roi, tu ne peux pas venir avec une robe tachée. Autrement dit, pour rentrer dans le royaume de Dieu, et le salut, c'est ça, c'est rentrer dans le royaume de Yeshua Mashiach. Tu ne peux pas rentrer avec des fautes. Si tu gardes dans ta poche des fautes, tu ne rentreras pas. Ce n'est pas possible. Alors, La question, c'est ce qu'on appelle la justification. Nous sommes justifiés par grâce, grâce au sacrifice de Yeshua Mashiach, vous le savez, mais à condition qu'il y ait la repentance. Cette repentance, malheureusement, je la vois de moins en moins prêchée. Mais, et c'est ça qui est dangereux, c'est que les hommes cherchent toutes sortes de justifications pour éviter la justification dont je parle. N'oubliez jamais, mais je le dis, je le répète encore une fois, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, 21 et 22, allez voir. J'ai souvent expliqué que l'Éternel a accepté de nous donner son Saint-Esprit qui vient habiter en nous à condition que l'intérieur que nous soyons propre. S'il n'y a pas eu une véritable repentance, je suis désolé, il n'y a pas eu de nettoyage. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est dit 3 fois dans la parole de Dieu. Alors, si nous continuons, admettons que nous nous soyons repentis, admettons que nous ayons pris le baptême, un vrai baptême, mais si nous recommençons à pécher, sans repentance, mais c'est, je vais vous donner une image, c'est exactement comme si vous aviez invité un personnage très important chez vous, vous avez nettoyé la maison. Moi, je sais que quand on reçoit des gens à la maison, mon épouse, elle nettoie la maison de pied en cap. Oups ! Et ça prend toute une journée, voire 2 jours. C'est comme ça. Donc, c'est propre. On a nettoyé. L'invité rentre. Il est heureux de rentrer. Il dit, oh, c'est propre ici. Et puis, tout d'un coup, vous vous mettez à jeter des ordures sur sa tête. C'est ça, péché ! Mettez-vous à la place de l'invité. Des tomates pourries, des toutes sortes de choses sur sa tête. Mais c'est ça, péché. Le Saint-Esprit est en vous, c'est lui qui reçoit. Et on n'est pas fidèle à la promesse, on a dit qu'on maintiendrait les lieux propres. Et on ne le fait pas. Vous comprenez? Je voudrais vous rappeler ce qui s'est produit dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 14. À un moment donné, vous savez que la sœur de Moïse s'est rebellée contre Moïse. Et voilà ce qui est dit. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un sujet de honte ? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Vous voyez, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et Dieu dit c'est comme si elle avait craché au visage de son père. Donc, déclarer que nous sommes justifiés par le sang de Yeshua, c'est à prendre avec sérieux. Nous ne pouvons plus vivre n'importe comment, c'est pas vrai. Paul, qui s'adresse au gouverneur Félix, dit ceci dans Actes 24, 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Elohim et devant les hommes. » Vous voyez ? Ça, c'est l'état naturel du chrétien. Et voilà que les hommes cherchent à se justifier autrement. Dans notre monde, voyez, les hommes ont inventé la psychologie. Il y a certains bons côtés dans la psychologie, mais il y en a d'autres non. Et on explique aux gens les tenants et les aboutissants de leur comportement. Alors, bien souvent, les gens sortent apaisés parce que, à la suite d'une analyse, comme ils disent, eh bien, on leur fait comprendre que finalement, c'est pas de leur faute s'ils ont agi comme ci ou comme ça. Et donc, elles ont, par toutes sortes de circonstances, parce que elles ont été battues quand elles étaient petites, enfin bref, son père les a pas aimées, etc. Et donc, à la fin, ils sont apaisés, ils sont en quelque sorte justifiés de leur façon de vivre. Et donc, la culpabilité est ôtée. Et à partir de là, ils se sentent mieux. Ils sont en quelque sorte justifiés. Et donc, voilà deux chemins de justification. Là, le premier chemin, c'est justifier par le sacrifice du Seigneur Yeshua Mashiach, et l'autre, par une analyse humaine des événements de la vie. Et ces deux méthodes, je m'excuse de vous le dire comme ça, s'excluent mutuellement, parce qu'elles sont contradictoires. Mais ce qui est commun, c'est la recherche de justification. L'être humain cherche toujours à être justifié. Pourquoi ? Parce que quand on se sent justifié, on a une forme de paix. Alors on cherche des arguments pour se persuader soi-même et les autres que ce qu'on a fait est bien. Proverbe 14-12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est pas moi qui dis ça, hein. Proverbe 16-17, « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » Je l'ai lu tout à l'heure. Je vais vous raconter de nouveau une histoire que j'ai déjà racontée, mais ça fait rien. Un jour, on a vu un responsable, un pasteur, qui, pour faire admettre son choix, a mis la pression sur l'Église d'une manière éhontée, au point qu'une sœur m'avait téléphoné en disant « Daniel, je sais que ça n'est pas de Dieu, mais je n'ose pas dire non. » Alors bien sûr, il a réussi son coup. Et pour se justifier après, à nos yeux, à mes yeux, parce que je lui ai dit « mais t'as manipulé ». Il m'a dit « non, je n'ai pas manipulé, j'ai influencé comme un père ». C'est pas beau ça, messieurs, mesdames, hein ? Comme dit l'autre, tout est une question de vision. Alors, je vais vous dire, lorsqu'on manipule, on évince le Seigneur en prenant les choses en main. C'est nous qui prenons le contrôle. On n'écoute plus les murmures de l'esprit. Dans les deux cas, c'est de prendre en main la destinée et d'empêcher, quand on manipule, on empêche l'Esprit Saint d'agir. Alors, on a vu deux modes de justification. Quelle est la bonne justification ? Au fond, ce qui est important dans cette réflexion, parce que ce que j'essaye de faire, c'est simplement d'essayer de nous faire réfléchir, je réfléchis en même temps que vous, la question, au fond, est la suivante. Est-ce que la crainte d'Elohim est présente ou non dans nos vies ? Je ne dis pas la peur, hein, je dis la crainte. Révérentiel. Vous voyez, Le Rav Ben Chetrit explique que on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Ça, c'est vrai, c'est une évidence. Mais si une autorité spirituelle n'a pas la crainte de l'Éternel, il ne pourra pas la communiquer, la faire passer. C'est pas possible, il l'a pas en stock. Il n'a pas compris, il n'a pas reçu. Et c'est comme ça que le Rav Ben Chetrit dit, un homme tordu, le tordu génère le tordu, et le droit génère le droit. Mais oui, c'est évident. Et il ajoute, et je suis d'accord avec lui, il ajoute que si le responsable d'une communauté n'a pas la crainte de l'Éternel, mais sauvez-vous! Il vaut mieux se sauver, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est ce que nous avons fait. Les sages d'Israël ont écrit ceci, « Tout celui qui a la crainte de la faute, sa sagesse s'accomplit. Tout celui dont la sagesse passe avant la crainte de la faute, sa sagesse ne s'accomplit pas. » Réfléchissez. Parce que, en fait, cette parole-là, c'est une interprétation du psaume 111 au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il faut d'abord la crainte avant d'être sage. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ça veut dire que celui qui craint de fauter devant l'Éternel, il surveille sa voie. Eh bien, il va étudier les Écritures pour comprendre les Écritures et savoir ce qui est bon ou mauvais. Et pour savoir s'il a la crainte au fond de lui, de l'Éternel, s'il a le respect de l'Éternel et de ses Écritures. Il va donc, s'il étudie, acquérir une maturité de la connaissance de ce qu'est le péché. Et donc, il va agir en conséquence et il devient sage. Il a une raison saine. Celui qui n'a pas la crainte de fauter, qui vit n'importe comment en disant « De toute façon, Dieu va me sauver, Dieu m'aime, Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est fait, voilà, tac, allez, allez, va, continue, fais ce que tu veux. Tu vas voir à la fin. » Celui qui n'a pas la crainte de fauter se croit sage et il adapte son comportement à cette sagesse qu'il croit avoir. Il trouvera toujours à se justifier et il aura une fausse paix. Et le problème, frères et sœurs, c'est que l'Éternel voit au fond des cœurs. Lui, il voit la vérité. Eh oui. Et quand la droiture n'est plus là, je vais vous dire, quand la droiture n'est plus là, attention. N'oubliez pas que, déjà, Ésaïe, dans Ésaïe 59, il est écrit, « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est grave. On a beau être chrétien, hein, baptisé, tout ce que vous voulez, si on vit dans le péché, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et vous empêchent, et l'empêchent de vous écouter. Alors, on constate que, dans ces cas-là, les gens trouvent toujours à se justifier, comme je vous l'ai expliqué. Mais quand leurs actions sont mauvaises, comme ça, et qu'ils trouvent à se justifier, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un mur qui s'est construit entre Dieu et eux, et qu'à partir de là, s'ils entendent encore des voix qui leur parlent, eh bien ce sont des esprits familiers ou des esprits de divination. Et ça, c'est hyper grave. La crainte de fauter est indispensable, parce qu'il est écrit dans Genèse 18, versets 17 à 19, quand il parle d'Abraham, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la tzedaka, la droiture, et la justice, mitzpat. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » C'est comme ça qu'on garde la voie, la foi, la voie, pardon. Et maintenant, je voudrais vous lire dans Ésaïe 59. Ça va du verset 9 à 21. Je ne vais pas tout lire, mais regardez. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière, voici les ténèbres. Un peu plus loin, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Et encore, au verset 14, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Et enfin, au verset 15, « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Le manque de droiture éloigne le salut. Alors, qu'est-ce que l'Éternel demande de toi ? Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est droit, ce qui est bien, tov. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Et on retrouve Mishpat et Resed. Et que tu marches humblement avec ton Elohim. Voyez, il y a des gens qui le font. Mère Teresa l'a accompli. Je la cite. Mais la difficulté de ce monde, c'est que ce monde, il embrouille tout. Même dans les églises. On relativise tout. Je vais vous citer ici, un jour j'ai assisté à la conférence d'un père jésuite. Il tenait une conférence et à un moment donné, il a dit un truc que je l'ai noté tout de suite. Il a dit, maintenant, il n'y a plus le bien et le mal, mais le bien et le juste. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il veut dire que le juste remplace le mal ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Et ça m'a fait réfléchir. Je ne suis pas allé le trouver pour aller discuter. Non, non, non. Mais vous voyez, dans notre monde, il y a un dicton qu'on emploie souvent, qu'on entend souvent, qui dit « la fin justifie les moyens ». J'ai vu souvent la pratique de ce dicton dans la vie courante, hein, les gens qui... Bon. Mais c'est-à-dire que grâce à un raisonnement de ce type-là, la fin justifie les moyens, on va justifier Robin des Bois. La question, elle n'est pas simple, hein, vous savez qu'elle n'est pas simple. Hein, parce que Robin des Bois, il volait les riches pour donner aux pauvres. Alors, on dit, c'est bien. Oui, mais... c'est du vol. Mais, oui, mais les riches avaient dépouillé les pauvres. Oui, mais c'est du vol aussi, d'ailleurs. Donc, c'est justice de les voler à nouveau, etc. Et on tourne en rond. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'on est rentré dans un fonctionnement qui veut pratiquer la vengeance. La vengeance pour un bien. Et Donc, on va organiser quelque chose qui est mal pour un bien. L'histoire de Robin des Bois, c'est quelque chose qui est mal pour un bien. Et je pense que c'est ça que ce jésuite voulait dire, le bien et le juste. C'est juste d'aller faire ce que Robin des Bois a fait, etc. Alors nous sommes ici, c'est un raisonnement qui est extrêmement dangereux, parce que il n'y a qu'un seul qui sait changer le mal en bien, c'est l'Éternel. Donc, c'est très grave de vouloir prendre la place de Dieu pour changer le mal en bien. C'est pas à nous à le faire. D'ailleurs, dans Romains 12, 19, il nous dit « Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors vous allez dire « Oui, mais quand même, oui, mais la vengeance, écoutez bien, c'est une vision à court terme. » Dieu voit à long terme. Il a tout le paysage. C'est comme une construction d'un immense puzzle. Et la vengeance, c'est comme si on prenait une pièce qui ressemble à la place qui est prévue, mais pas tout à fait, et on force son entrée. Mais ce n'est pas sa place. Résultat, le pull s'est raté. Donc, se venger, c'est faire entrer de force quelque chose qui ne doit pas. Alors vous allez dire, bon, bah alors, il faut laisser faire. Non, pas du tout. Nous avons l'arme de la prière pour faire connaître à l'Éternel nos besoins et nos souffrances. Et le Seigneur connaît toutes choses. Il répond s'il n'y a pas un mur. Il répond en son temps et comme il veut, selon le pulse général. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie, bien sûr. Un jour, une amie devait rendre son appartement. Elle louait cet appartement à une personne privée et elle devait quitter cet appartement pour aller dans un appartement proposé par la ville. Donc moins cher, etc. Donc il y a eu l'état des lieux. Et le propriétaire est venu avec un huissier qui était son ami et qui, franchement, était un peu véreux. Bref. Et là, cette dame, elle était un peu naïve. Et donc, pendant l'état des lieux, eh bien, il a fait ressortir un tas de défauts que cette femme, elle n'avait même pas repéré. Et donc, elle a eu l'état des lieux et elle a dû payer une très grosse somme pour faire des travaux sur des choses qui avaient soi-disant été démolies alors qu'elle ne les avait même pas vues. Et l'huissier avait enregistré tout ça. C'est vraiment injuste, hein? C'est vraiment injuste. Et vous ne savez pas que cette amie, elle avait invité la dame de la mairie à venir. Bien sûr, cette dame n'avait aucun pouvoir pour intervenir, mais elle a vu. Elle a constaté le mensonge. Et alors, quelques mois plus tard, la fille de notre ami cherchait une maison. Et figurez-vous que c'est là que Dieu est intervenu pour rendre justice. La dame de la ville qui avait tout vu, eh bien, quelques mois plus tard, elle a rendu justice en offrant une maison à la fille de notre ami, moyennant quoi notre ami a pu avoir sa fille beaucoup plus près d'elle. Et elle habite dans un quartier tranquille, et toute sa famille a pu se rapprocher de la maman. C'est comme ça que le Seigneur fait justice. C'est lui qui fait justice en son temps. Et sa justice s'accompagne d'une consolation. Ésaïe 35 au verset 4 dit « À ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Elohim, la vengeance viendra, la rétribution d'Elohim, il viendra lui-même et vous sauvera. » Alors, prenons un autre exemple. Actuellement, dans notre État et un peu partout dans le monde, il y a la mise en place de ce qu'on appelle l'aide à la fin de la vie. Beaucoup de gens sont séduits par ça, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ces choses-là sont éminemment spirituelles. Rien que le titre déjà, l'aide à la fin de vie. On va vous aider, par amour bien sûr, on va vous rendre service en vous éliminant. Un des buts, évidemment, c'est d'éviter la souffrance. Et je comprends. Quand tout est désespéré, quand on est arrivé au bout de sa maladie, etc., qu'il n'y a pas de miracle, une énorme souffrance, on se dit, bon, ben, c'est la solution. Mais c'est oublier, frères et sœurs, qu'il existe des soins palliatifs et que ça permet aussi aux malades de mourir paisiblement. Mais la mort par injection létale, c'est un grand sujet de discussion, de réflexion, vous savez. Ça va peut-être supprimer la dernière occasion pour quelqu'un de donner sa vie au Seigneur et de vivre dans le royaume de Dieu. Cette dernière injection est une forme de suicide. On demande, c'est une forme de suicide. On l'arrange proprement. Et puis je rappelle aussi que ceux qui vont faire l'injection, ça porte un nom aussi, ça. Qu'en est-il du salut de ceux qui font ça? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voyez comme la chose est habillée. La mise à mort est présentée comme un acte d'amour. Et ceux qui ont pour vocation de soigner vont être amenés à tuer. Bon. Alors, on va continuer notre étude. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Quand le Seigneur choisit un homme ou une femme pour être une autorité spirituelle, ou une autorité civile, une autorité, eh bien, le Seigneur attend que cette personne soit droite et juste. Le peuple, tout le peuple, attend la même chose. Regardez, 2 Samuel 8,15. David régna sur Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. Voilà David. C'est pareil dans 2 Chroniques 9,8. Béni soit l'Éternel ton Dieu, on parle de Salomon, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Alors vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on découvre les mauvais comportements d'une autorité, qu'elle soit religieuse ou civile, ça n'a pas d'importance. Cette personne-là, elle perd automatiquement à nos yeux toute son autorité. Pouf ! Dans l'Église, nous devons être soumis aux autorités. C'est écrit. Je ne vais pas rappeler les versets, hein. Tite 3.1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Dans 1 Pierre 5.5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc, je ne vais pas mettre en question cela. Mais, souvenez-vous du comportement de David par rapport à Saül. Saül était l'autorité. Et le roi Saül était devenu méchant, jaloux de David, etc. Ta, 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 ta. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, David a été contraint de chercher sa protection ailleurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a connu des autorités qui étaient tellement odieuses, des comportements très douteux, que je ne vois pas, mais vraiment je ne vois pas comment j'aurais pu me placer sous la protection de ces gens-là. Comme on dit, c'est un parapluie troué, il n'y avait même plus que les baleines. Donc, là, ça pose un gros problème, vous savez. Ça pose un gros problème parce que je n'ai jamais confié ma protection spirituelle à un autre que le Seigneur lui-même. Dans le psaume 37, versets 37 à 40, on dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. » C'est l'Éternel, c'est Yeshua Mashiach qui nous protège. Et ça dépend de notre droiture. Et je respecte les autorités spirituelles, si elles sont établies par le Seigneur, bien sûr. Mais il faut leur laisser le droit d'exister, le droit de, même si elles font n'importe quoi, moi je les laisse. C'est au Seigneur à les juger, mais moi je ne vais pas chercher ma protection chez eux. Pensez que la protection spirituelle, et vous savez que dans certains milieux, on essaye de nous faire croire que la couverture spirituelle, si on quitte la couverture spirituelle des autorités, alors il va nous arriver des trucs. Mais c'est pas vrai! C'est même dangereux. Vous vous rendez compte? C'est au Seigneur qu'on doit confier sa protection, pas à un homme. Alors je ne vais pas combattre les autorités, ce n'est pas mon travail, mais je rappelle quand même, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, je ne vais pas tout lire, « Sache que dans les derniers jours, vous vous rappelez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » On a le droit de s'éloigner des tordus. Même les tordus qui ont une autorité spirituelle. Ceci étant dit, la prière est le soutien de beaucoup de chrétiens, et des chrétiens consacrés. C'est une grande aide pour notre protection, bien sûr. Je remercie tous les frères et sœurs qui prient pour nous. Je les remercie du fond du cœur. Mais enfin, quand une autorité est droite, on n'a aucun mal à se soumettre. Parce que la confiance est forte. Mais la protection, c'est l'Éternel qui nous la donne. À condition qu'il n'y ait pas un trou dans la cuirasse. Alors, on avance. Il y a des personnes qui sont placées à des positions élevées, eh bien, elles doivent tendre à être irréprochables. Sinon, elles deviennent des pierres d'achoppement. Et quand elles deviennent des pierres d'achoppement, elles introduisent la malédiction et dégoûtent les gens du Seigneur lui-même. Parce que un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu est censé représenter le Seigneur. Vous rendez compte? Ça signifie qu'une multitude de gens ont été perdus par la faute, par le manque de droiture et d'amour, évidemment. Le manque de droiture et de justice est une iniquité très grave. Elle entraîne des personnes à se perdre. Des personnes qui sont écœurées, qui se retirent dans l'amertume et qui vont errer, qui s'isolent, cherchent de communauté en communauté, mais qui est droit? Le Seigneur dit dans Matthieu 7, 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mais je rassure ceux qui cherchent la droiture, ceux qui la cherchent. Il est dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ils seront rassasiés dans le monde qui vient. Dans le Proverbe 12, 26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Rappelons également la doctrine de Bilam, qui consistait à envoyer les filles de Moab pour que les fils d'Israël se livrent à la débauche et qui sacrifient à leur Dieu. À cause de cette faute, il y a eu 24 000 morts. Seigneur, en ce qui concerne les membres de l'Église, il est demandé d'avancer dans la droiture, dans l'amour, pour être des hommes faits à l'image du Mashiach. Ça concerne tous les membres de l'Église. Tous les membres de l'épouse doivent être des images du Mashiach. Bien entendu, en premier, les responsables. En vérité, nous sommes tous responsables de quelqu'un et de quelque chose. Philippiens 3:17 dit « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Alors, je vais conclure. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'épouse du Mashiach avec l'Église ou les Églises. Je rappelle que le mot « église » vient du grec « ecclésia » qui veut dire « une réunion de citoyens appelés de leur maison dans un endroit public, une assemblée ». Et Chouraki traduit « mais moi-même je te dis, Matthieu 16, 18, tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai ma communauté. Les portes du Shéol ne seront pas plus fortes qu'elle. » Alors, la communauté de Yeshua a pris au fil des siècles des chemins compliqués. Elle s'est morcelée, divisée en dénominations, chaque dénomination pensant avoir raison, détenir la vérité, bref, on y trouve tout et son contraire. Ça n'est pas à moi de juger, ce sont où sont les membres de la communauté de Yeshua, c'est lui qui juge. Mais je vous rappelle que les communautés sont en général publiques. Donc tout le monde peut y entrer, et si vous êtes suffisamment habile, vous pouvez même en devenir le chef. En réalité, l'épouse est constituée de personnes qui sont en relation intime avec l'époux. Peu importe la dénomination, si elles font la volonté du père, il y a même des personnes qui sont sans aucune dénomination, dans les haies, dans les fossés, comme je dis, mais qui ont trouvé le cœur de l'époux. Je rappelle, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une seule épouse. Il n'y en a qu'une. Les dénominations, c'est du pipeau. Donc, dans les assemblées, on trouve bien sûr des membres de l'épouse, mais on va aussi trouver des sympathisants, des malheureux, des suiveurs comme Lot, des carriéristes, des profiteurs, des influenceurs, des illusionnistes, des dominateurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des abuseurs, des activistes, des séducteurs et même des sorciers. Alors que chacun s'examine soi-même, au fond, qu'est-ce qui nous motive ? Le Seigneur disait ceci, dans Matthieu 12, versets 47 à 50, quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Yeshua répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, et j'ajoute, permettez-le-moi, mon épouse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, shalom sur chacun d'entre vous. Amen. »